vision d'une émission de principe actif. Une rediff, quoi.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Et voilà.
Bonjour Mireille.
Bonjour Philippe.
Bonjour les éditeurs. Pour cette dernière.
De l'année. De la saison.
De la saison. La 75e.
Ouais, pas mal quand même.
C'est pas mal.
On est contents de nous, c'est bien.
Bah nous, ça suffit.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de Joseph Kessel, donc qui appelait parfois Jeff ou encore le tsar de Montmartre. Donc c'est un romancier, un grand reporter, aventurier, résistant et aussi académicien français. Et donc il est né le 10 février 1898, donc c'était ça date pas d'hier, à la Villa Clara en Argentine, où il va passer ses 3 premières années. Alors puis ses parents vont retourner en Russie pendant 3 ans et en 1908 ils vont s'installer à Nice. En août 1913 ils viennent près de Paris, mais la famille Kessel revient à Nice dès août 1914, au début de la première grande guerre mondiale.
Oui, donc à cet âge précoce il avait déjà beaucoup voyagé.
Voilà.
Ses parents fuyaient les persécutions antisémites et c'est pour cela qu'il passe son enfance entre l'Oural et même le Lot. Vu que son père, qui était médecin, a même exercé dans le Lot. Donc, moi, je me suis dit que c'est sans doute ce départ fulgurant à travers le monde qui lui a donné
Cette envie de voyager, voilà. Parce c'est ce qu'il a fait toute sa vie.
Une enfance cosmopolite.
Alors, ensuite, pendant quelques mois, alors qu'il est à peine âgé de 16 ans, il est infirmier brancardier à l'hôpital à Nice, qui est installé à l'hôtel impérial de Simiez. Et l'année suivante, il va obtenir sa licence de lettres et est engagé au journal des débats dans le service de politique étrangère.
Très précoce. Hein.
Voilà, parce que bon, ce qui veut dire qu'à 17 ans, il avait sa licence.
Oui, c'est un surdoué.
Alors en 1916, donc, il est admis ainsi que son frère Lazare au Conservatoire d'art dramatique. Joseph fait quelques apparitions comme figurant sur la scène au théâtre de l'Odéon, mais à la fin des années de l'année, il décide de s'engager volontairement donc, dans l'armée française. Il est enrôlé dans l'artillerie et il est rapidement affecté dans l'aviation, arme toute nouvelle à cette époque.
Alors tu as évoqué son frère Lazare qui est décédé seulement, il s'est suicidé à l'âge de 21 ans, ça a été une blessure durant toute sa vie, et je me suis aperçu que ce jeune frère Lazare, enfin, mort très tôt, était le père naturel de Maurice Druon, l'écrivain.
Oui, voilà, qui était le neveu de Joseph Kessel.
Joseph Kessel, et Druon, il a passé une partie de son enfance à la Croix-Saint-Leufroy, près de chez nous, là, à Évreux. C'était amusant, parce qu'il y avait Pagnol à côté, à Fontaine-de-Bourg, je crois.
Donc
voilà.
Très bien pour ces renseignements
complémentaires.
Alors, donc, la guerre terminée, il va se porter volontaire pour une mission en Russie, où la guerre civile vient de commencer. Et donc, la mission est d'apporter un soutien aux armées blanches de Sibérie. Et pour cela, il gagne Vladivostok en passant par les États-Unis. Alors, dès lors, son œuvre romanesque va se nourrir d'aventures humaines dans laquelle il s'immerge à la recherche d'hommes exceptionnels. Et après la guerre, il va se consacrer en parallèle au journalisme et à l'écriture romanesque.
Déjà une vie bien remplie, parce que donc il s'engage là dans les armées blanches qui luttaient contre l'armée rouge constituée par les bolcheviks.
Voilà. Donc là, je vous propose d'écouter une première histoire qui s'appelle Naki le Kuruma. Alors, un Kuruma, c'est comment, c'est les personnes qui traînent les petits
les pousse-pousse.
Les pousse-pousse, voilà, merci. Alors, c'est extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle La Steppe Rouge, qui est paru en 1922. Il avait tout juste 24 ans.
Donc, il a bien écrit des nouvelles, ce dont je doutais, à une époque.
Bon, alors voilà, on va vous passer ça.
Naquit le Kuruma. Devant la succursale que la banque Bradford de Chicago avait installée à Kobe, se tenait une station de Kuruma. Ils étaient une vingtaine. Les uns assis entre les roues de leur voiturette somnolaient, les yeux mi-clos, et l'on voyait sous les paupières baissées leurs prunelles luire comme des gouttes d'eau morte. D'autres, appuyés au brancard et les reins déjà ployés pour la course, échangeaient des paroles gutturales. Tous guettaient fiévreusement le signe du client qui leur donnerait les quelques cents nécessaires à l'achat du bol de riz et de la coupe de saké. De temps en temps, l'un d'entre eux, plus attentif ou plus rapide, se jetait au galop et, décrivant une courbe légère, s'arrêtait devant un gros japonais vêtu de kimono sobre ou devant un étranger qui, nonchalamment, montait dans la voiture. Naquit avait beau veiller, il n'arrivait point à se trouver parmi ces heureux. Pourtant, ses jambes étaient encore fermes et il avait l'œil vif, mais déjà lui faisait défaut cette promptitude animale de la jeunesse qui seule permet de triompher. Son souffle se faisait plus court et il sentait parfois dans sa poitrine lasse une bête acharnée et sournoise qui l'étouffait. À quoi songeaient-ils ses camarades et lui? Nul n'aurait pu, à moins d'être de leur sang pénétré sous ses fronts lisses, lire au fond de ses yeux sombres et brillants, deviner l'intention du sourire qui parfois ridait ses lèvres fines sans qu'un muscle de la face bougeât. Était-il là de leur métier de bête de trait? L'acceptait-il avec la sérénité du sage? Ou simplement, ne pensait-il à rien, engourdi par le soleil d'été qui tombait d'aplomb sur leur crâne rasé? Tout à coup, ce fut comme un orage. Ils se ruèrent vers le perron de la banque, gesticulant, hurlant des syllabes heurtées et rauques. Une jeune femme venait d'y apparaître, et les cris de la meute s'adressaient à elle. Chacun des coureurs espérait, par une clameur plus stridente, mériter son attention. Devant ses visages convulsés, ses prunelles brûlant d'une supplication forcenée, Miss Evelyn Philip eut un geste de dégoût. Car si elle méprisait avec une conviction ingénue toute peau qui n'était pas blanche, elle nourrissait une répulsion particulière pour les animaux à forme humaine qui traînaient les voyageurs à travers les villes japonaises. Elle eut même la tentation de décevoir cette troupe hurlante et de ne prendre aucun des coureurs qui s'agitaient autour d'elle. Mais il était près de midi. Une chaleur humide glissait en nappe suffocante du ciel presque blanc. Une poussière lourde et molle couvrait les rues. Les kurumas étaient indispensables. Paresseusement, elle les examina. Ils se ressemblaient tous, vêtus de courtes vestes bleu-noir, de culottes très collantes. Leurs chaussures sans talons, en toile tressée, étaient fendues près du gros orteil, ce qui leur faisait à tous des pieds fourchus de démons. Le regard indécis de Miss Evelyn tomba sur Naquit. Cependant que ses compagnons continuaient à vociférer, il s'était tu, car la bête cachée au creux de sa poitrine lui avait brusquement serré le cœur. Pour ce silence involontaire, l'Américaine le choisit, car il lui parut moins avide et bestial que les autres. Elle marcha vers lui. Aussitôt, les clameurs tombèrent nettes. Tous ces hommes qui, une seconde avant, semblaient possédés, s'en retournèrent vers leur station calme, soudain et impassible. Miss Evelyn s'installa dans la voiturette, ouvrit son ombrelle. Une tache brune dansa dans son beau corps, riche de chair musclée et généreuse, dont on suivait le jeu sous la robe de toile blanche. Naquit, ses mains plates posées sur les brancards, attendait qu'elle indiquât l'adresse. Ce fut d'abord celle d'une boutique de soierie. Le coureur s'ébranla. Son malaise s'était dissipé. Et la tête effacée entre les jambes, le dos tendu, il trottait à foulée large, régulière et sûre. L'effort qu'il fournissait lui était si habituel qu'il ne le sentait même point. Seules, les rides qui s'enfonçaient davantage dans ses joues maigres le trahissaient. Miss Evelyn regardait distraitement couler autour d'elle la vie de Kobe. Elle ne s'intéressait plus aux femmes serrées d'obis éclatants, ni aux cliquetus menus des socs de bois sur le pavé, ni aux enfants attachés au dos de leur mère, ni aux saluts cérémonieux décomposés dans les rues. Elle avait déjà catalogué tout cela dans son esprit méthodique et, l'inventaire terminé, n'entendait point le recommencer chaque fois. Lorsqu'elle sortit de la boutique, elle ordonna à Naki.
Consulat d'Amérique.
Le Kuruma reprit son élan. Les rues étroites bordées des shops s'élargirent et Miss Evelyn respira plus librement. Elle n'aimait point la vieille cité japonaise, ne se trouvait à l'aise que dans le quartier des délégations, bâti dans la ville haute vers laquelle Naki se dirigeait. Il allait bon train, on eût dit que sa voiturette le poussait. Et la jeune fille, habituée au sport, considérait avec une certaine déférence cette machine humaine si bien entraînée dans son effort et ses mollets, dont les muscles dessinaient des stries précises dans l'étoffe tendue qui les couvrait. Pourtant, le pont de la voie ferrée franchit, l'allure diminua. La montée très dure commençait. Miss Evelyn changea de posture, s'accouda confortablement. Naki rapprocha davantage les épaules et bomba les reins pour attaquer la côte. Il connaissait bien la rude pente qu'il gravissait joyeusement dans sa jeunesse. Mais ce jour-là, dès les premiers pas, il sentit avec accablement la charge de sa voiturette et l'étrangère lui parut plus lourde qu'un très gros marchand. Les brancards tiraient sur ses mains. Tout son corps était comme happé en arrière. Il ne voulut point s'avouer cette déchéance. Raidissant les jarrets, crispant son torse, il continua à trotter. Mais il y eut un choc dans sa poitrine. Le souffle lui manqua et cette douleur familière qui lui donnait une trouble angoisse le poignit de nouveau à la place habituelle, près du cœur. Pourtant, l'idée de s'arrêter ne lui vint point. Seulement, il se mit au pas. Miss Evelyn fit un geste de contrariété. La manière d'estime qu'elle avait conçue pour le Kuruma s'évanouit. Puisqu'il était même incapable de gravir rapidement la côte, vraiment cet homme cheval était dénué de tout intérêt. Le soleil, à chaque instant, frappait plus pesamment la terre. Ses rayons pénétraient à travers le corsage échancré de la jeune fille et coulaient en brûlante traînée sur sa peau qui était nue sous la robe. Elle cria.
Plus vite !
Docilement, Naki reprit le trot. Mais la bête accrochée à sa chair s'était réveillée complètement et jamais elle n'avait été si cruelle. Et la pente devenait sans cesse plus raide, l'étrangère plus lourde. Alors, Naki tourna la tête vers elle. Des gouttes épaisses perlaient sur sa peau jaune et il avait les traits tirés d'une telle fatigue que Miss Evelyn comprit. Le Kuruma lui demandait de descendre et d'achever la côte à pied. Mais elle ne pouvait admettre que ce japonais de basse classe lui inspirât de la pitié. En outre, allait-elle pour l'épargner se couvrir de sueur, alors qu'elle venait de prendre son bain froid il y avait une heure à peine ?
En avant !
Répondit-elle. Et Naki, ramassant toute sa vigueur, s'élança, voulut d'un élan arriver au sommet de la côte. Les premières foulées furent puissantes, puis il vacilla. Miss Evelyn poussa un léger cri. La voiturette se renversait. Son poids triomphait, des bras devenus débiles et les brancards échappaient invinciblement aux doigts du Kuruma. La jeune fille jeta un regard plein d'épouvante derrière elle. Nue et frappée de lumière, la pente dévalait. Si le coureur tombait, le véhicule allait bondir sans guide ni frein et l'écraser dans une course folle. Comme elle chérit en cet instant son corps magnifique, comme elle détesta le japonais dont la force épuisée allait le détruire. Cependant, les genoux de Naki fléchissaient. Un râle sourd labourait sa gorge. Ses mains desserraient leur étreinte. La voiturette penchait de plus en plus. Et déjà, l'Américaine la sentait s'animer à cette force terrible que prennent les choses lorsqu'elles sont victorieuses. L'équilibre suprême dont sa vie dépendait allait se rompre. Soudain, Naki se redressa à demi. D'un mouvement désespéré, il fit volter sa voiture et dans un dernier sursaut de volonté, s'étendit contre les roues qu'il bloqua de son corps. Puis, sa grosse tête s'imprima, inerte, dans la poussière. Très pâle, Miss Evelyn sauta sur le sol et devant le cadavre du Kuruma, elle eut enfin l'impression vague d'être devant un homme.
On n'a pas vraiment envie de tirer un pouce-pouce.
Bon, bon, alors la musique était un peu forte, je sais pas, j'ai
un peu forte, mais tellement appropriée.
J'ai mal fait le montage, alors désolé.
Non, 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 c'était très bien.
Donc
le Kuruma, c'est un genre de petit pousse-pousse, une voiture à bras, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, voilà.
Conduite par un homme.
Voilà, c'est ça. Donc c'est le nom du pousse-pousse, mais qu'on donne aussi au conducteur. Voilà, donc il peut y avoir un ou deux passagers dedans.
Donc là, c'est encore pire qu'en Inde, où il y a encore les vélos qui tirent les l'appareil, hein, les pousse-pousse. Là, c'est carrément en course, quoi.
Les gars, ils doivent courir, quoi.
En course humaine.
Alors, Joseph, bien en 1921, il va se marier avec Nadia Alexandra Poluzzi-Michenesti.
Voilà, bravo pour la diction.
Qui est une descendante d'une famille appartenant à la noblesse roumaine du 19e siècle. Donc, elle est surnommée Sandy. Mais malheureusement, cette jeune femme va mourir en 1928 de tuberculose. Mais le jeune Joseph, là, il a une soif de vivre qui semble impossible à étancher. Alors, dès qu'il empoche un peu d'argent, il se précipite vers les cabarets russes de Montmartre, le Scheherazade, le Grand-Duc, le Yard. Alors, les Russes blancs, chauffeurs de taxi le jour pour survivre, se retrouvent dans la lumière des lampes et la fièvre des violons, quelque chose de leur splendeur perdue. Donc, la vodka, le champagne coule à flot, et Kessel reprend à pleine voix les vieux chants tziganes, danse sur les tables, tape dans les mains, se laisse emporter par la musique. Alors, il offre des tournées et dépense sans compter. Donc, on pense bien évidemment que c'était le roi là-bas.
Hein. Bon, on imagine bien. Hein.
Alors, un petit matin, hein, bon, il a plus un sou, mais il est très content. Et donc, là, il se met à écrire.
Voilà, même avec la fatigue et tout, comme stimulant finalement.
Alors, de ces nuits montmartroises, de cette fraternité d'exilés, naîtra quelques années plus tard son livre « La nuit des princes ». Alors, il va participer aussi à la création de Gringoire, c'est un hebdomadaire politique et littéraire qui devient l'un des plus importants de l'entre-deux-guerres.
Mais qui tourne mal parce qu'à un moment donné, le journal devient franchement antisémite et à ce moment-là, Kessel le quitte d'ailleurs.
Oui, bah oui, voilà. Oui. Donc en 1930, le journal Le Matin lui permet d'enquêter sur la traite des esclaves qui est encore courante entre l'Afrique et l'Arabie. Avec l'appui sur place d'Henri de Montfred, il suit la piste des marchands d'esclaves en Abyssinie, puis au Yémen, après avoir traversé la mer Rouge. Ce reportage, qui connaît un écho important, est la principale source de son roman Fortune Carrée, dans lequel le lecteur suit le trajet inverse de celui de Kessel, en croisant des figures largement inspirées par les rencontres de l'écrivain durant son voyage.
Alors peut-être on peut rappeler que l'Abyssinie, c'est situé dans la corne de l'Afrique, c'est-à-dire au nord-est de l'Afrique, et à l'époque ça regroupait le nord de l'Éthiopie, l'est du Soudan et le sud de l'Érythrée, des pays où aujourd'hui malheureusement tout ne va pas très bien.
Alors, dans un autre registre, en 1936, il publie La Passante du Sans-Souci, qui est un roman au ton antifasciste.
Tout à fait, hein, adapté en film, un film de Jacques Rouffio de 1982 avec Romy Schneider et Michel Piccoli, que nous avons vu, bien sûr.
Alors, il rencontre Catherine Gangarn, qui est d'origine lettonne et qui est surnommée Katia, avec qui il va se marier en 1939, mais dont il divorce assez rapidement.
Bon, voilà.
Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il est correspondant de guerre et puis rejoint la résistance et rallie le général de Gaulle à Londres. En mai 1943, dans l'enceinte du pub The White Swan à Colchester, dans la banlieue sud de Londres, il compose avec son neveu Maurice Druon, dont tu as parlé tout à l'heure.
Tout à fait.
Donc le fils de son frère Lazare.
Bien.
Les paroles françaises du chant des partisans, qui devient le chant de ralliement de la résistance, dont Anna Marly, elle-même d'origine russe, a composé la musique d'après un air traditionnel russe.
Oui, et la première chanteuse à avoir interprété le chant des partisans n'est autre que Germaine Sablon, sa compagne d'alors, ouais. Qui n'était autre que la sœur du chanteur Jean Sablon.
Voilà. Et donc la même année, hein, Kessel va publier L'Armée des Ombres en hommage à ses camarades combattants de la Résistance. Il finit la guerre avec le grade de capitaine d'aviation dans une escadrille qui, la nuit, survole la France pour maintenir des liaisons avec la Résistance et lui remettre des consignes.
Oui, alors L'Armée des Ombres, pareil, une très belle adaptation, c'est un de mes films préférés de Jean-Pierre Melville, avec dans le rôle principal Lino Ventura.
Tout à fait. Alors bon, allez, on va écouter le chant des partisans. On ne l'écoute pas si souvent, on l'entend pas si souvent.
C'est vrai, ça ne va pas nous faire de mal.
Voilà. Nous, on l'apprenait à l'école quand on était petit.
Ah, tu l'apprenais? Ah, non, oui. Moi, je ne crois pas. Moi, c'était plutôt feu de bois, feu qui chante, joli feu de bois.
J'avais peut-être des parents qui étaient un peu dans le rouge. Et donc, on l'apprenait à l'école. Allez.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
La partie sifflée vers la fin, et je crois me souvenir que c'était utilisé lors de certaines émissions de radio, parce que déjà c'était la musique était un signe de ralliement, et les brouilleurs de radio ne pouvaient pas couvrir le sifflet, justement.
Voilà, exactement. Alors, donc c'est à cette époque, alors qu'il est à Londres, hein, qu'il va rencontrer Michelle O'Brien, une Irlandaise, avec qui il se marie en 1949.
Bon, c'est le troisième mariage, plus les autres compagnes, hein, si on compte bien.
Oui, oui, oui. Alors, malheureusement, elle sombre par la suite dans une dépendance à l'alcool qui va inciter Kessel à s'intéresser aux alcooliques anonymes et à leur méthode d'entraide contre l'alcoolisme. Et donc, il va publier à ce moment-là Avec les alcooliques anonymes en 1960. Maintenant, on vous propose d'écouter un petit texte qui s'appelle « L'éloge de la paresse ».
C'est pas voilà. De Paul Lafargue, là. Presque.
Et donc, c'est un extrait. Hein, donc, il y a une partie avant et il y a une partie après, mais donc on a juste...
On a mis des coups de ciseaux.
Voilà, c'est ça, un petit extrait. Là. Donc, je vous propose d'écouter
Rediffusion
ça.
D'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
En attendant, continuons notre enquête sur la paresse à travers le monde. On juge mieux sur les exemples. Or, ma bonne chance et la République française m'ont mis entre les mains quelques sérieuses pièces à conviction. Le jour même où, à Brest, les cloches à toute volée annonçaient l'armistice, et où un amiral américain, très ivre, embrassait les officiers français sur les deux joues, nous nous embarquions avec de joyeux camarades pour la Sibérie. Nous formions une escadrille qui, paraît-il, devait, par des photographies aériennes, lever le plan de ces terres inconnues qui vont de l'Oural au Pacifique. Notre itinéraire passait par les États-Unis et le Japon. Le matériel, lui, devait suivre par le canal de Panama. Que l'on sache tout de suite que nous ne l'avons jamais vu. Je raconterai un jour ce que fut ce voyage héroïque et comment, parti le 11 novembre, nous arrivâmes à Vladivostok au mois de février. Je parlerai alors des vols de Sacramento, des Bouches Nègres, des Chinois de San Francisco, du De Nuit du Nouvel An, du Barcelonel de Shanghai et de quelques autres lieux de réjouissance sous des cieux divers. Il faut se borner à son sujet. C'est une règle littéraire. Et puis le charmant éditeur qui me force à travailler sur la paresse ne serait pas content. C'est d'ailleurs un supplice comique et raffiné que de se voir assis à une table devant un encrier sous le soleil et de noircir du papier à tour de bras pour dénombrer avec conviction les charmes, les bienfaits et la grandeur de ne rien faire. Mais nous voici en Amérique. Déjà sur le bateau, nous avions fait quelques provisions de nonchalance. Ah, les traversées! Comme la paresse y règne avec ses grandes ailes au plumage gris et or. Comme elle s'éploie sur les ponts dormants, sur les transatlantiques, sur les hommes désarmés, sur les femmes adoucées. Point de lendemain, point de passé. La minute présente compte seule et elle est toute de mollesse. Les vagues expriment sans fin leur berceuse, les conversations se font plus lentes, la fumée des pipes refuse de se dissoudre dans l'air immobile, la création se repose sous un ciel qui, fatigué lui aussi, s'appuie sur l'océan. Et les heures coulent, pareil, et toujours renouvelées. Traversées, couleurs d'eau de mer et de whisky soda, sentant la brise, les îles et le loisir. Parenthèse merveilleuse, image du paradis. À quoi devez-vous votre béatitude s'emparer sinon à cette déesse, enveloppée de voile et nue pourtant, à cette déesse de langueur et de liberté, à laquelle en ces lignes j'élève un monument ?